Vous écoutez, on lit pour vous.
Pourquoi les jeunes Québécois sont-elles plus progressistes que les gars? Un texte de Vincent Brousseau-Pouliot paru le 7 mars 2024 dans la presse. Vous êtes une Québécoise dans la vingtaine et vous trouvez que les hommes de votre âge sont idéologiquement beaucoup plus conservateurs? Eh bien, non, vous n'avez pas la berlue. L'écart idéologique entre les jeunes hommes et les jeunes femmes s'est accru de façon importante au Québec depuis 2015, selon les résultats de l'étude électorale canadienne. Les jeunes femmes sont de plus en plus à gauche idéologiquement, alors que les hommes de 18-29 ans sont restés relativement au centre. Ce n'est pas un phénomène propre au Québec ou au Canada. On constate la même tendance aux États-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni ou en Corée du Sud, a conclu le Financial Times dans un article publié à la fin de 2023, après avoir analysé les données de la firme Gallup. Des dizaines de millions de personnes qui occupent les mêmes villes, les mêmes lieux de travail, les mêmes salles de classe et même les mêmes maisons ne voient plus les choses de la même façon, écrit le chroniqueur John Byrne Murdoch. J'ai voulu vérifier si cette tendance était aussi vraie dans notre village d'Astérix, le Québec. À ma demande, l'équipe de la chaire de recherche du Canada en démocratie électorale de l'Université de Montréal a analysé les données de l'étude électorale canadienne dans le cadre de laquelle les Canadiens et les Québécois déclarent où ils se situent sur l'axe gauche-droite sur le plan idéologique. Les résultats sont clairs. L'écart idéologique entre les genres se creuse aussi parmi les Québécois dans la vingtaine. En 2015, les jeunes femmes québécoises étaient un peu plus à gauche que les jeunes hommes, mais à peine. Sur une échelle de 0 à 10, 0 étant le plus à gauche possible, 5 le centre et 10 le plus à droite possible, les Québécoises dans la vingtaine s'auto-déclaraient en moyenne à 4,61 un peu à gauche et les hommes du même âge en moyenne à 4,98 au centre, soit un écart relativement minime de 0,37. En 2019, cet écart a augmenté de façon importante à 1,10. En 2021, l'écart était de 0,83. Les jeunes femmes étaient plus à gauche, à 4,02, les jeunes hommes relativement au centre, à 4,86. Dans la population générale québécoise, tous âges confondus, l'écart idéologique entre les genres est passé de 0,09 en 2015 à 0,49 en 2021. En 2021, l'écart idéologique entre les genres est presque deux fois plus élevé chez les 18-29 ans, 0,83, que dans la population générale, 0,49. Pourquoi cet écart? Est-ce l'élection de Donald Trump, le recul du droit à l'avortement aux États-Unis, le mouvement hashtag moi aussi, les inégalités salariales? Il n'y a pas un seul, mais plusieurs facteurs qui expliquent ces différences idéologiques entre les genres chez les jeunes, croit Ruth Dassonville, professeure en sciences politiques à l'Université de Montréal et titulaire de la chaire de recherche du Canada en démocratie électorale. Les femmes sont plus nombreuses à aller à l'université et il y a une corrélation entre le niveau d'éducation et les attitudes progressistes, dit-elle. La signification gauche-droite a aussi changé. Ce n'est plus seulement une question économique. La gauche symbolise aujourd'hui plusieurs enjeux importants pour les femmes comme l'environnement, l'avortement et les enjeux LGBTQ+. Les jeunes Québécoises n'ont pas toujours été plus à gauche que les jeunes Québécois. En 2004 et en 2008, elles étaient idéologiquement plus à droite que les jeunes hommes. En 2008, elles avaient ainsi une cote idéologique de 4,48 sur 10, comparativement à 4,00 pour les hommes dans la vingtaine. Pourtant, dans la population générale, tous âges confondus, cette année-là, les hommes étaient légèrement plus au centre, 4,76 que les femmes, 4,66. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change que les jeunes femmes penchent plus à gauche? Premier constat évident. ça fait pencher la société davantage à gauche et les décideurs politiques devront s'adapter à cette nouvelle réalité, estime la sociologue Diane Pacon, professeure émérite à l'Université d'Ottawa. Mais au-delà de la politique, pourrait-il y avoir d'autres conséquences dans la vie en société? Moins d'amitié homme-femme? Davantage de désaccords idéologiques dans les couples hétérosexuels? Ultimement, moins de couples hétérosexuels? Dans un éditorial publié l'automne dernier, le Washington Post s'est avancé sur cette question très délicate. Aux États-Unis, 41% des jeunes femmes qui étudient à l'université accepteraient un rendez-vous galant avec un homme qui ne vote pas pour le même parti, démocrate ou républicain, qu'elles. Or, 67% des étudiants, eux, accepteraient qu'une jeune américaine progressiste ne veuille rien savoir de fréquenter un trumpiste opposé au droit à l'avortement, ça se comprend parfaitement, et vice-versa. Mais si l'écart idéologique grandissant tracasse l'équipe éditoriale du Washington Post, c'est parce que les convictions politiques deviennent plus centrales à l'identité d'une personne dans une société de plus en plus clivée. En plus, les convictions politiques au début de la vie adulte ont une grande influence sur les convictions politiques tout au long de sa vie, selon une étude américaine. Est-ce possible qu'il s'agisse seulement d'un phénomène passager? La professeure Ruth Dassonville en doute. Même si, traditionnellement, l'écart idéologique entre les genres est moins grand pour les groupes plus âgés, l'écart est beaucoup plus prononcé chez les jeunes femmes actuellement, dit-elle. On ne voyait pas de tels écarts chez les jeunes femmes des générations précédentes. Ça suggère que quelque chose est en train de se passer dans la société, dit Ruth Dassonville. À gauche, on constate des positions généralement plus progressistes, un appui à davantage d'intervention de l'État dans l'économie et davantage de réglementation, un appui à un fardeau fiscal plus élevé, davantage de redistribution de la richesse, un État de taille plus imposante, une importance accrue aux questions environnementales, des droits de la personne et du droit à l'avortement. À droite, on constate des positions généralement plus conservatrices, un appui à moins d'intervention de l'État dans l'économie et moins de réglementation, un appui à un fardeau fiscal plus faible, moins de redistribution de la richesse, un État de taille plus petite, une importance moindre accordée aux questions environnementales et aux droits de la personne, un appui moindre à la protection généralement moins grande du droit à l'avortement. Lors de l'étude électorale canadienne, on ne donne pas de définition de la gauche et de la droite aux répondants, qui s'auto-évaluent selon leur propre définition de la gauche et la droite. Et ailleurs au pays? Dans le reste du Canada, ROC, l'écart idéologique entre les femmes et les hommes dont la vingtaine est actuellement plus élevé qu'au Québec. L'écart est en moyenne de 0,98 pour le ROC contre 0,83 au Québec. Les jeunes Canadiennes sont plus progressistes que les jeunes Canadiens. Pourtant, dans le ROC, en 1997, il n'y avait pas d'écart idéologique entre les deux genres chez les jeunes dans la vingtaine, qui se définissaient tous deux en moyenne au centre, moyenne de 5,0 sur 10. L'écart a augmenté de façon importante en 2015 et est resté élevé depuis. C'était « Pourquoi les jeunes Québécois sont-elles plus progressistes que les gars ?» un texte de Vincent Brousseau-Pouliot paru le 7 mars 2024 dans la presse.
Maison ou résidence, quand les parents et les enfants ne s'entendent pas. Un texte de Micheline Choquet et Dominique Alexis paru le 1er mars 2024 dans le magazine Virage. Quand les enfants s'inquiètent pour leurs parents vieillissants, il leur arrive parfois d'avoir la conviction qu'ils seraient plus en sécurité en résidence. Or, les parents ne sont pas toujours d'accord. Comment concilier l'angoisse des uns et la volonté des autres? trois personnes ont accepté de nous confier l'expérience vécue par leur famille sur cet enjeu particulier. Nous avons ensuite demandé à la travailleuse sociale Annie Gagnon d'apporter son éclairage professionnel sur chacune des trois situations. Quand les enfants s'inquiètent. Nathalie nous confie s'inquiéter pour son beau-père de 83 ans depuis que sa belle-mère a dû être admise dans un CHSLD il y a un an. Comme son conjoint est fils unique et que, de plus, ils habitent loin, le couple se sentirait plus tranquille si monsieur, qui peine à se débrouiller seul, acceptait de déménager en résidence. Or, il répond toujours que c'est sa femme qui a besoin d'aide, pas lui. Il va d'ailleurs la voir tous les jours et prend très au sérieux son rôle de proche aidant. Nathalie se désole qu'il s'en mette autant sur les épaules. S'il était en résidence, il serait en sécurité et pourrait profiter de la vie. Voyant qu'il ne servait à rien d'insister, son conjoint et elle ont cessé de lui parler de résidence, jusqu'à ce qu'elle en découvre une à distance de marche du CHSLD de sa belle-mère. Mine de rien, Nathalie a glissé l'information à son beau-père, qui, à sa grande surprise, est revenu sur le sujet en lui disant que ce serait peut-être une bonne idée. Le beau-père de Nathalie avait peut-être tout simplement besoin de temps pour s'adapter à sa nouvelle situation avant d'envisager un nouveau changement, estime Annie Gagnon, qui a travaillé 20 ans dans le système public avant de fonder Sérénité, une firme spécialisée en travail social. Après tout, monsieur a vu sa vie changer radicalement, et comme sa priorité est sa femme, il va de soi que la seule résidence qui puisse l'intéresser soit celle qui lui permette de se rapprocher d'elle, ce qu'a fort bien saisi sa belle-fille. Selon l'experte, ce témoignage souligne l'importance d'accompagner une personne à son rythme, en regardant la situation de son point de vue, en respectant ses choix et ses valeurs. Cela demeure le défi de bien des proches, concède-t-elle. Quand le parent impose son choix. Le père de Chantal a 97 ans. Selon elle, celui-ci s'entête à vivre seul dans sa maison bien qu'il soit malade, visiblement souffrant et en fauteuil roulant. Même s'il souffre le martyre, il nous répond toujours que tout va bien. Tous septuagénaires, Chantal et ses frères et sœurs collaborent donc au maintien à domicile de leur père. Et ce n'est pas faute de lui avoir proposé toutes les alternatives possibles. Même si certains enfants se sentent prisonniers de son choix, tous se sentent coupables de n'être pas plus présents. Chantal est celle qui s'accommode le mieux de la situation, car elle ne se gêne pas pour lui dire ses quatre vérités ni pour fixer ses limites quant à ses disponibilités, toujours avec une touche d'humour. Madame Gagnon a souvent observé que les personnes aînées ne se rendent pas toujours compte des répercussions que peuvent avoir sur leurs proches leur choix de rester à domicile, parce que personne n'ose leur dire. C'est pourquoi elle encourage les proches à exposer clairement leurs limites, d'abord entre eux, puis avec leurs parents. De toute évidence, dans cette famille, Chantal communique fort bien avec son père. Plutôt que de l'infantiliser, elle le traite d'égal à égal, poursuit la travailleuse sociale. Mais communiquer ses limites n'est pas facile pour tout le monde. Dans une telle situation, une personne neutre peut être mieux placée pour faire savoir aux enfants comme aux parents ce qu'ils n'arrivent pas à se dire directement. Quand un enfant impose son choix. Lise raconte qu'un an après la mort de son père, un de ses frères a décidé qu'il était temps pour leur mère âgée de 81 ans d'aller en résidence. Pensant bien faire, il a magasiné et choisi seul la résidence qui lui conviendrait, selon lui. Ma mère a été mise devant le fait accompli, comme mes frères et moi. Elle a déménagé contre son gré et n'a parlé à aucun résident durant 2 ans, se désole Lise, toujours ébranlée en évoquant ce souvenir. Mais 10 ans plus tard, sa mère a choisi seule une nouvelle résidence et pris toutes les dispositions concernant sa fin de vie sans le dire ni demander la permission à personne, résume Lise, admirative. Dans ce cas-ci, le libre arbitre de la mère semble avoir été bafoué, indique Mme Gagnon. Tant qu'une personne est en mesure de prendre ses décisions, nul n'a le droit de les prendre à sa place. Or, cette dame en était parfaitement capable, comme l'indique la fin de son histoire. Même en ayant les meilleures intentions du monde, placer quelqu'un contre son gré n'est jamais une bonne idée. J'ai déjà vu des cas où la personne avait cessé de s'alimenter, poursuit la travailleuse sociale. La conviction de savoir mieux que l'autre ce qui serait le mieux pour son bien-être est un des traits les mieux partagés de la nature humaine. Mais tout bien intentionné soit-il, bien des proches ne se fient qu'à leur propre jugement. La résidence leur paraît être la solution, faute de connaître les solutions de rechange qui pourraient permettre à la personne de demeurer chez elle. C'est pourquoi je dis souvent que les travailleuses et travailleurs sociaux servent à trouver des solutions. Ces spécialistes peuvent aussi servir de médiatrices ou de médiateurs en cas de désaccord entre les enfants et évaluer objectivement les besoins du parent. C'était « Maison ou résidence, quand les parents et les enfants ne s'entendent pas ». Un texte de Micheline Choquet et Dominique Alexis, paru le 1er mars 2024 dans le magazine Virage.
La chasse aux agents de conservation, un texte de Cécile Dallot, paru dans le magazine Reflet de mars 2024, volume 40, numéro 3. Savoir conserver ses aliments a toujours été primordial. Avant l'utilisation généralisée du réfrigérateur, maintenir des aliments propres à la consommation en dehors des périodes de récolte était ardu. On les entreposait sous terre, au froid. On les fumait, les déshydratait ou les salait afin de réduire au maximum la prolifération des micro-organismes et la pourriture. Le savoir-faire en matière de mise en conserve a également permis de consommer fruits, légumes et viandes durant les rudes mois d'hiver. Aujourd'hui, la norme est l'achat de produits prêts à déguster, conservant un maximum de fraîcheur le plus longtemps possible. L'industrie alimentaire a dû s'y adapter et a mis au point différents agents de conservation ajoutés aux aliments. Mais ces derniers soulèvent de nombreuses questions. Pourquoi les agents de conservation? Les agents de conservation sont des substances chimiques ajoutées aux aliments pour obtenir les effets suivants: empêcher leur dégradation, améliorer leur apparence, conserver leur qualité nutritive. La prolifération des bactéries et des moisissures, ainsi que le rancissement, peuvent altérer les propriétés des aliments, goût, texture, couleur, etc., mais surtout entraîner des intoxications alimentaires. Lesquels sont les plus fréquemment utilisés? Sont-ils dangereux? Il est fréquent de retrouver différents conservateurs dans la liste des ingrédients des produits transformés. L'acide ascorbique, vitamine C, les tocophérols, vitamine E, le chlorure de sodium, sel de table, l'acide acétique, vinaigre, et l'acide citrique, citron, sont des molécules naturellement présentes dans les aliments, puis isolées afin d'être ajoutées à d'autres produits pour en faciliter la conservation. Aucun effet potentiellement négatif pour la santé n'a été rapporté à leur sujet, mis à part le cas du sel de table, qui peut nuire à la tension artérielle s'il est utilisé en trop grande quantité. D'autres molécules produites en laboratoire sont fréquemment utilisées dans le but de préserver les propriétés des aliments et d'inhiber la prolifération de micro-organismes, dont le BHT et le BHA, les dérivés de phosphate, le sorbate de potassium, le benzoate de sodium, ainsi que les nitrites, nitrates, sulfites et sulfates. Lorsqu'ils sont consommés à haute dose, ces agents de conservation peuvent avoir des répercussions sur la santé. Par exemple, le BHT, utilisé dans les emballages pour garder la fraîcheur des produits, pourrait avoir un effet sur le système hormonal ainsi que sur la santé des reins. Les phosphates, ajoutés à de nombreux aliments, dont les craquelins, seraient également susceptibles d'altérer la fonction rénale. Le sorbate de potassium et les sulfites pourraient être la cause de certaines réactions allergiques et le benzoate de sodium, qu'on retrouve en particulier dans les boissons, pourrait exacerber l'hyperactivité chez certains enfants souffrant du TDAH. Utilisés en particulier dans les produits de charcuterie, les nitrites, dont la poudre de céleri qu'on retrouve dans certaines listes d'ingrédients, seraient potentiellement cancérigènes. Santé Canada réglemente le dosage de ces agents de conservation dans les produits afin de s'assurer que leur utilisation est sécuritaire. À chacun ensuite de faire preuve de modération dans sa consommation des aliments qui en contiennent. Comme la majorité des agents de conservation sont ajoutés aux produits transformés, cuisiner à partir d'aliments frais est une bonne façon de limiter leur présence dans nos assiettes. Réduire la fréquence des viandes transformées et de repas prêts à servir au menu est une excellente stratégie. Repérer les agents de conservation dans la liste des ingrédients en est une autre. Mais en cas de doute, acheter et cuisiner des produits frais, non transformés et de saison reste encore la meilleure option. C'était « La chasse aux agents de conservation », un texte de Cécile Dalot paru dans le magazine Reflet de mars 2024, volume 40, numéro 3.
Cuisiner le pain frit. Un texte de Leïla El-Chenaoui, paru en avril 2024 dans Sélection du Reader's Digest. Dans une version de sa chanson Fry Bread, lancée en 1996, Keith Sekola, un artiste folk rock ojibwe, disait qu'on ne peut pas faire grand-chose avec du sucre, de la farine, du sein doux et du sel, mais qu'on peut y ajouter un ingrédient essentiel, l'amour. Depuis sa création dans les années 1800, le pain frit, fry bread en anglais, est devenu un aliment réconfort culturellement important au sein des communautés autochtones partout au Canada et aux États-Unis. La saveur, la couleur et la taille de ces pains ronds de pâte frite diffèrent en Amérique du Nord, chaque famille et communauté ajoutant sa touche personnelle. Ben Jacobs est copropriétaire du Tokabe, un restaurant de Denver, au Colorado, qui propose du pain frit et d'autres plats d'inspiration autochtone. Il a déclaré au New York Times « Notre pain frit ne sera jamais comme celui de votre mère ou de votre tante. » Malgré la variété de recettes, la plupart d'entre elles ont des ingrédients en commun. Les ingrédients de base, farine, poudre à pâte ou bicarbonate de soude et sel, sont mélangés au fouet, puis pétris en une boule de pâte en utilisant de l'eau ou du lait. D'autres recettes utilisent du babeurre, reconnu par certains pour rendre le pain plus savoureux. Une fois levé, la boule de pâte est divisée en morceaux et roulée en rondelles. On y fait quelques trous pour aider le pain à rester plat quand il est frit dans le sein doux, le shortening ou l'huile végétale, jusqu'à ce qu'il devienne moelleux, doré et croustillant. Le pain frit peut être dégusté nature, avec du miel, du beurre ou de la confiture, ou saupoudré de sucre à glacer. Pour une version plus nourrissante, on le transforme en taco en ajoutant de la laitue, du bœuf haché, des tomates en dés, des haricots et du fromage râpé. Aussi apprécié que soit le pain frit, ce délice très calorifique, un seul pain nature contient 500 calories et 20 grammes de gras, représente aussi un douloureux symbole de survie à la suite du déplacement colonial forcé de peuples autochtones dans tout le continent. Une légende raconte que le pain frit aurait d'abord été cuisiné par les Diné ou Navajos. En 1864, ils furent forcés de quitter leurs terres ancestrales dans l'est de l'Arizona et l'ouest du Nouveau-Mexique et de marcher près de 500 kilomètres de Fort Défiance, en Arizona, à Bosque Redondo, au Nouveau-Mexique. Des centaines d'entre eux sont morts de faim pendant le trajet. Parmi les ingrédients bon marché que le gouvernement américain leur donnait en ration quotidienne, il y avait de la farine de blé et du sein doux. Selon la légende, les Navajos faisaient frire la farine, souvent gâtée, pour en éliminer les parasites. Le terme anglais « bannock », « bannick » en français, qui vient du mot gaélique « bannack » et qui signifie « boucher », est souvent utilisé comme synonyme de « fry bread ». Bien que similaire, la bannick est généralement plus compacte que le pain frit, puisqu'elle ne contient habituellement pas de levain. La bannick se cuisine dans les communautés Mi'kmaq, Inuit et Ojibwe, mais a d'abord été importée sur ce continent par les colons écossais et les marchands de fourrure au 18e et 19e siècle. Aujourd'hui, un mouvement naissant pour la souveraineté alimentaire souhaite revitaliser les aliments traditionnels dont le pain frit ou la bannick ne fait pas partie. Il n'y a pas de tradition orale à enseigner concernant le pain frit, écrit dans la revue Native American and Indigenous Studies, l'historien Devin A. Mieshwa, professeur à l'Université du Kansas et citoyen engagé de la nation Choctaw. En sa qualité d'aliment durable, le pain frit témoigne de la résilience des communautés autochtones face aux déplacements forcés et à la colonisation. C'était « Cuisiner le pain frit », un texte de Leila El Shenawy, paru en avril 2024 dans « Sélection du Reader's Digest ».